Nous sommes comme chien et chat, Elenaïs et moi, et pourtant obligés de travailler ensemble pour servir notre seigneur et maître. Ce dernier se trouve en ce moment au sommet de son observatoire, cette tour solitaire perdue au cœur des jardins, devant laquelle nous montons la garde. Il y passe ses nuits à scruter le ciel en compagnie d'Exili, le grand archiâtre. Crois-le ou non, il m'arrive de réfléchir. Je lance à Elenaïs. À des choses que tu ne soupçonnes pas, ma belle, même dans tes rêves les plus fous. Je complète mentalement. Elle n'est bien sûr pas au courant de ma double identité. Elle ne sait pas qu'en ce moment même, mon véritable patron, mon faucon, anime une réunion secrète de la fronde. Eh bien, garde tes réflexions pour toi, même si je ne doute pas qu'elles soient passionnantes, réplique Elenaïs en mimant un bâillement. Je veux juste m'assurer que tu ne t'endors pas pendant notre service. Pas question de monter la garde pour deux. À peine a-t-elle terminé sa phrase, qu'un nouveau cri résonne du côté du labyrinthe de verdure au milieu des jardins. Puis un autre encore, plus proche, plus déchirant. On dirait que les invités du roi s'en donnent à cœur joie ce soir, s'exclame Elenaïs, agitant les serpenteaux de cheveux châtains qui encadrent son visage de porcelaine. Se réjouit-elle vraiment du malheur des victimes, ou bien affiche-t-elle ce sourire narquois que pour jouer les insensibles? Je penche pour la seconde option. Sous ces dehors d'écuyères brutales et de courtisanes blasées, je soupçonne ma coéquipière de posséder un cœur qui n'est pas encore complètement endurci par les usages ignobles de la cour. Mais je ne me fais pas d'illusions pour autant. Si elle venait à apprendre ma véritable identité, elle me pourfendrait de son gantelet en mort-argent sur le champ. Ou du moins, elle essaierait, car je me défendrais sauvagement. Je déglutis en songeant que le moment de notre affrontement est peut-être proche, quand je tomberai enfin le masque. Après tout, la vice-reine Anne d'Angleterre et le vice-roi Carlos II d'Espagne viennent de tomber les leurs en se retournant contre leur suzerain Louis. Ah, combien je voudrais être déjà à la fin de la nuit, quand viendra le moment de retrouver Sterling. Sur l'oreiller, il me racontera tout des délibérations secrètes. À cette seule pensée, je sens un sourire se dessiner sur mes lèvres. Un foyer chaud s'allume dans mon ventre, luttant contre les frimas de l'hiver.
Qu'est-ce qui te met en joie, Diane ? Me demandait Linaïs, suspicieuse.
Elle n'a pas l'habitude de me voir heureuse, moi qui m'applique à toujours afficher le visage de marbre d'une vestale de la Magna Vampiria.
Comme toi, la satisfaction de savoir que les invités du roi sont bien nourris, je prétends.
Les proies de ce soir sont des vagabonds qui ont bravé la loi du couvre-feu à leur risque et péril. Ils n'ont que ce qu'ils méritent, ces gueux.
Pas seulement des gueux. Un certain garde suisse, qui n'est pas insensible à mes charmes, m'a confié qu'on sert aussi des frondeurs pour la chasse galante de cette nuit.
La température, déjà glaciale, me semble descendre de quelques degrés supplémentaires. Des frondeurs ? Pourquoi Elenaïs me regarde-t-elle aussi intensément en me disant cela ? Dans le halo jaunâtre de la lanterne accrochée au mur de l'observatoire, son visage parfait semble me juger comme celui d'un ange exterminateur. La peur avec laquelle je vis depuis près de 30 mois, celle d'être démasquée, me prend aux tripes.
« Ah oui ? Des frondeurs ? »
dis-je d'un ton que je voudrais innocent.
« Lesquels ?»
Comment ça, lesquels ? Répond Elenaïs sans cesser de me fixer.
Parce que t'en connais personnellement ?
Je glisse imperceptiblement ma main gantée de cuir en direction de la poignée de mon épée. Les pensées s'enchaînent à toute allure dans ma tête. Si j'affronte Elenaïs en duel, aurais-je le dessus ? Et quand bien même, quelles sont mes chances de m'enfuir vivante en pleine chasse galante, à travers des jardins infestés de vampires déchaînés ?
Non, bien sûr que je n'en connais pas personnellement,
dis-je. Je souris toujours. Mais les muscles de mes lèvres me font mal.
Je ne fréquente pas n'importe qui, moi. Je ne traîne pas avec des gardes trousseurs de jupons.
Peut-être que tu devrais, sans t'y toucher, rétorque-t-elle en haussant les épaules.
Ça te dériderait un peu ? Toujours si sérieuse, si ennuyeuse.
Elle pousse un soupir, exhalant un nuage blanchâtre.
Oui, je m'amuse parfois avec ce Jérémy.
Et alors ? J'ai bien le droit. C'est comme ça que je recueille des informations de première main, des secrets d'alcôve.
Pour ta gouverne, l'Inquisition a coincé la semaine dernière un petit groupe de frondeurs qui tentaient de voler des munitions dans une poudrière du côté de Senlis. Ce soir, leur sang coule à flot.
Ouf, mon faucon et Sterling sont sains et saufs. Le nœud dans mon estomac se desserre. Mais la sensation de nausée ne me quitte pas. Je m'en veux de me sentir soulagée, alors que plusieurs des nôtres sont en train de mourir ce soir. Combattants inconnus, sacrifiés sur l'autel de la cruauté.
Tu es encore plus froide que les seigneurs de la nuit eux-mêmes, continue de se moquer Elenaïs. Frigide au dernier degré. Pas étonnant que tu fasses fuir tous tes soupirants. Même le plus collant d'entre eux,
cet Alexandre de Mortange qu'on n'a pas revu à Versailles depuis des lustres. Alexandre. Voilà des mois que je n'avais plus pensé à cet énergumène. C'est le premier vampire que j'ai rencontré jadis, lorsque je suis montée de mon Auvergne natale à Versailles. Le premier aussi que je me suis juré de détruire, car il a mené l'assaut des soldats du roi contre ma famille, impliquée dans la fronde. Dupé par ma fausse identité, il est tombé éperdument amoureux de moi, au point de me sauver, dans ces mêmes jardins, voilà 2 ans, quand j'y suis entrée en pleine chasse galante et que je suis devenue la proie d'un couple de nobles assoiffés de sang. Je m'en souviens comme si c'était hier. Le labyrinthe de verdure dans lequel je m'étais perdue, n'étant encore qu'une simple élève de la grande écurie. Le tambourinement de mon cœur dans ma poitrine. La cavalcade de Marc-Antonio de Tarella et d'Edmé de Vauvallon dans mon dos. Je n'oublierai jamais le rire sadique de la marquise lancée sur mes talons. Il me semble entendre encore cette voix cruelle et cristalline comme le hurlement qui transperce une nouvelle fois la nuit. C'est elle. C'est Edmé, j'en suis sûre. J'ai beau être désormais une écuyère du roi, protégée par mon uniforme et ma fonction, la peur surgit du passé me mord les entrailles. Je dégaine mon épée, lorgnant la sortie du labyrinthe de verdure à 20 de mètres du parvis de l'observatoire. « Eh bien alors, quelle mouche te pique, Diane ?» me lance Elenaïs. « Il y a quelque chose d'anormal ce soir. » s'écrie. J'ai reconnu la voix de la marquise de Vauvallon. « Vraiment ?» Elle fait cliqueter les griffes de son gantelet avec nervosité. Les courtisans vampires ont l'habitude de râler de plaisir lors des chasses galantes. Or, les hurlements qui n'en finissent pas de se rapprocher sont clairement des hurlements de terreur. Nous observons le labyrinthe enténébré, que la lune anémique peine à éclairer. Soudain, une silhouette en émerge en courant. L'imposante robe en satin crème dont elle est vêtue ressort dans la nuit, tel un fantôme. Mais cette pâleur est maculée de souillures sombres, des taches de sang noir mêlées de ténébrine, l'humeur propre aux vampires.
« Au secours !»
allait Edmé de Vauvallon. Mon instinct ne m'avait pas trompé. Son immense chignon, d'habitude impeccable, est à moitié défait. De nombreuses tresses s'en échappent. Les perles rares qui le paraient gisent au sol, tels les cailloux luisants du petit pousset. Au-dessous de cette coiffure échevelée, l'expression froide et cruelle de la marquise a laissé place à un regard effaré. Elle presse sa main contre sa gorge. Entre ses longs doigts blafards sertis de bagues, je vois s'écouler un jus noir, du sang vampirique. Une hypothèse folle jaillit dans mon esprit. Et si la fronde avait lancé un assaut majeur contre le château et ses occupants, là, ce soir, alors que le roi vient de décréter le doublement de la dîme de sang pour accompagner l'effort de guerre, et que le peuple est pressuré comme jamais, ce serait le moment idéal. Mais je n'y crois pas. J'aurais forcément été prévenu, et Sterling aussi.
« Les Anglais !» s'écriait Lénaïs.
Hypothèse plus plausible, en effet. Depuis des jours, le palais bruit de la rumeur d'un débarquement. Mais si tôt? Et comment? Je lève les yeux vers le ciel obscur, à la recherche d'un de ces fameux blood chips dont tout le monde parle à Versailles et que Sterling m'a décrit avec précision. Des vaisseaux volants, créés par les ingénieurs anglais des Amériques, gonflés à l'air inflammable, émus par des pédaliers auxquels sont enchaînés des vampires surnuméraires gavés de sang. Depuis un mois, les chantiers navals de l'immuable fonctionnent à plein régime pour copier cette invention qui révolutionne l'art de la guerre. Mais que je sache, ils n'ont encore produit aucun bâtiment. Et ce soir, le firmament est vide de toute nef aérienne, anglaise ou française.
« Diane, cesse de rêvasser et mets-toi en garde !»
m'enjoint Elenaïs, la voix vibrante de stress. Au même instant, Edmé vient s'effondrer à nos pieds, charriant avec elle la froide aura des ténèbres, caractéristique des seigneurs de la nuit. L'envie me démange d'abattre le tranchant de mon épée sur sa nuque offerte, pour débarrasser le monde d'une sangsue qu'il parasite depuis bien trop longtemps. Après tout, bien qu'elle n'en sache rien, j'ai déjà supprimé secrètement Tarella d'une balle de mort-argent en plein cœur. Envoyer Edmé rejoindre son amant en enfer est une idée tentante, mais je n'en fais rien, car je dois préserver ma couverture. Et parce que j'ai l'intuition qu'une menace encore plus terrible que la Vauvallon est sur le point de surgir du labyrinthe. Je me campe sur mes jambes, les yeux rivés sur les haies de buis frémissantes, tandis qu'Elenaïs interroge la marquise blessée.
« Qui vous a attaqué, madame ? Un anglais perfide ?»
Je n'ai pas bien vu. »
Voilà qui est étrange, pour une créature nyctalope, capable de percer l'obscurité la plus complète.
« Tout s'est passé si vite !»
balbutie-t-elle.
« Je courais après un gueux, et soudain quelque chose a jailli d'un couloir de verdure perpendiculaire au mien. Je me suis débattue, j'ai griffé, j'ai mordu, mais Cette chose m'a mordu plus fort encore, à la gorge.